Le livre de Joël et l'église adventiste du septième jour, Laodicéenne. Numéro 7.
Numéro 7. Dans les premiers articles, nous avons inclus le passage tiré de « The Desire of Ages » qui traite du Christ présentant la parabole de la vigne aux Juifs ergoteurs. La parabole du cantique de la vigne est aussi le cantique de Moïse et de l'agneau, que chantent les 144 000. Et l'inspiration nous apprend qu'un cantique en prophétie représente une expérience. Les 144 000 suivent l'agneau partout où il va. Ainsi, ils vivront la même expérience que le Christ et Moïse. Le Christ, l'oméga de l'histoire prophétique de Israël ancien, et Moïse, l'alpha de cette histoire, ont tous deux vécu des périodes parallèles où un ancien peuple d'alliance était mis de côté, tandis qu'un nouveau peuple d'alliance était choisi. Les 144 000 chantent le cantique de Moïse et de l'agneau en faisant l'expérience d'une histoire où un ancien peuple d'alliance est mis de côté, tandis que le Seigneur conclut une alliance avec son ultime peuple d'alliance.
Prophétiquement, la présentation de la parabole par le Christ s'aligne avec l'intervention de Pierre auprès des Juifs ergoteurs à la Pentecôte. Dans la crise finale, Jésus présentant la parabole aux Juifs ergoteurs représente ceux qui chantent le cantique de la vigne aux ivrognes d'Éphraïm. Pierre présente le même cantique à la Pentecôte, mais il le chante sur le ton de Joël. Le cantique de la vigne est le chant d'un ancien peuple d'alliance en train d'être répudié, au même moment où un peuple de la nouvelle alliance est épousé par le Seigneur. Les vierges cinq qui furent déçues et entrèrent dans le temps d'attente attendaient les noces, et l'accomplissement parfait serait qu'elles attendent le scellement des 144 000.
Le livre de Joël commence, dans son premier chapitre, par décrire comment la vigne de Dieu a été détruite par les buveurs de vin et de boissons fortes, auxquels le vin nouveau a été ôté de la bouche. Dès que Jésus informa les Juifs que le royaume leur serait retiré et donné à des vignerons qui produiraient les véritables fruits de la vigne, il changea de registre et cita la pierre angulaire du temple qui avait été mise de côté, mais qui était destinée à devenir la pierre de fête. Le commencement allait se répéter à la fin. Et lorsque cette vérité est exposée, elle est présentée comme merveilleuse.
La règle de la première mention dans la parole de Dieu nous apprend que, puisque Joël aborde d'abord la destruction de la vigne, c'est le point principal de son témoignage. Joël n'est pas seul, car tout prophète majeur commence son témoignage en dénonçant les péchés et l'état de perdition d'Israël. Dans Ésaïe 28, les hommes moqueurs qui gouvernent Jérusalem sont représentés comme les ivrognes d'Éphraïm et comme la couronne d'orgueil. Couronne représente l'autorité et orgueil représente un caractère satanique. Les ivrogniers sont opposés au reste, résidu, qui devient la couronne de gloire de Dieu. Car, pendant la pluie tardive, le Seigneur établit son royaume de gloire, comme l'a préfiguré l'établissement du royaume de la grâce à la croix. Le royaume de la grâce à la croix préfigure le royaume de gloire lors de la loi du dimanche.
La pluie de l'arrière-saison a commencé le 9-11, lorsque le scellement des gens 44 000 et le jugement des vivants ont également commencé. Pendant le temps du scellement, l'effusion du Saint-Esprit a commencé le 9-11, alors que Jésus insuffla quelques gouttes. C'en est le fondement, et l'effusion du Saint-Esprit au cri de minuit en est le couronnement. Merveilleux est un symbole de la période de l'effusion de l'Esprit allant de 9-11 jusqu'à la loi du dimanche.
Le symbolisme parallèle, quoique opposé, de la couronne, représentant la direction, est exposé dans le récit d'Ésaïe Nuï, lorsque les ivrognes qui gouvernent Jérusalem sont laissés de côté et que la direction de l'Église de Dieu est donnée au reste. Cela illustre la parabole de la vigne. La couronne de l'ivrogne est ôtée, et les 144 000 deviennent alors la couronne qui représente le royaume du Christ. Ésaïe enseigne la même vérité au chapitre 22, lorsque Shebna est jeté dans un pays lointain et remplacé par Éliakim. Qu'il s'agisse des ivrognes d'Éphraïm ou de Shebna au chapitre 22, tous deux représentent le fait que la direction de l'ancien peuple d'alliance de Dieu est mise de côté.
Zacharie identifie l'entrée triomphale, qui est aussi le cri de minuit. Et les versets qui suivent s'accordent avec Ésaïe en identifiant le peuple de Dieu comme une couronne.
Réjouis-toi grandement, fille de Sion. Pousse des cris, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et porteur de salut, humble, et monté sur un âne, et sur un ânon, le petit d'un âne. Et je retrancherai le char d'Éphraïm, et le cheval de Jérusalem, et l'arc de guerre sera retranché. Et il parlera de paix aux païens. Et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre.
Quant à toi aussi, par le sang de ton alliance, j'ai fait sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau.
Retournez à la forteresse, prisonniers de l'espérance. Même aujourd'hui, je déclare que je te rendrai le double. Quand j'aurai bandé Juda pour moi, rempli l'arc d'Éphraïm et suscité tes fils, ô Sion, contre tes fils, ô Grèce, et fait de toi comme l'épée d'un vaillant guerrier.
Et le Seigneur apparaîtra au-dessus d'eux, et sa flèche sortira comme l'éclair. Et le Seigneur Dieu sonnera de la trompette, et s'avancera avec des tourbillons du sud. Le Seigneur des armées les défendra, et ils dévoreront et vaincront avec des pierres de fronde. Et ils boiront et feront du bruit comme sous l'effet du vin, et ils seront remplis comme des coupes, comme les angles de l'autel. Et le Seigneur leur Dieu les sauvera en ce jour-là comme le troupeau de son peuple, car ils seront comme les pierres d'une couronne, élevées comme un étendard sur sa terre. Oh, que sa bonté est grande, et que sa beauté est grande. Le blé réjouira les jeunes gens, et le vin nouveau les jeunes filles. Zacharie 9, 17.
Le verset 11, 9 vers déclare « Quant à toi aussi, par le sang de ton alliance, j'ai fait sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Christ a confirmé l'alliance avec un grand nombre pour une semaine, et la semaine a commencé à son baptême. Pendant 3 ans et demi, le Christ a marché parmi les hommes, et dans la période finale de ces 3 ans et demi, le Christ a accompli la prophétie de Zacharie, annonçant l'entrée triomphale du Messie à Jérusalem. Le cri de minuit a amorcé une période qui a conduit à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Christ. Le baptême du Christ représente sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Ainsi, le début et la fin de la période de 3 ans et demi coïncident. Le baptême du Christ préfigure le 11 septembre, et le 11 septembre marque le début d'une période qui s'achève avec la loi du dimanche. Le 11 septembre, la pluie de l'arrière-saison a commencé à se répandre à petites gouttes, et, lors de la loi du dimanche, elle est déversée sans mesure, comme le préfigure le moment où le Christ souffla sur les disciples, leur accordant quelques gouttes de pluie en prélude à l'effusion à la Pentecôte.
Zacharie 9:01 lait correspond à 9-11 et aussi au cri de minuit qui mène à la loi du dimanche. À 9:01, le message de Laodicée est arrivé comme vérité présente, comme cela s'était produit en 1856 et en 1888. Le message de Laodicée est donné à des personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont mortes. Elles sont dans une fosse, sans message de l'appui de l'arrière-saison, car leur fosse n'a pas d'eau. Si Laodicée répondait simplement au coup frappé à la porte de son cœur, le Seigneur les tirait de la fosse. Car jusqu'à la clôture de l'approbation, au moment de la loi du dimanche, ils sont des prisonniers de l'espérance.
Quant à toi aussi, par le sang de ton alliance, j'ai délivré tes prisonniers de la fosse, où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, prisonniers de l'espérance. Aujourd'hui même, je déclare que je te rendrai le double. Zacharie 9, 11, 12.
Le 11 septembre a donné sa puissance au message arrivé en 1989. Ce message est le message du troisième ange, mais dans la structure et les termes du mouvement de réforme millérite. 1989 a marqué l'arrivée du premier ange. Le message du premier ange a reçu sa puissance le 11 août 1840 par l'accomplissement d'une prophétie concernant l'islam. Et cela indique que l'arrivée en 1989 du troisième ange recevrait sa puissance par l'accomplissement d'une prophétie concernant l'islam.
Lorsque la prophétie de l'islam fut confirmée le 11 août 1840, l'ange d'Apocalypse 10 descendit, typifiant ainsi la descente de l'ange d'Apocalypse 18 le 11 septembre. L'augmentation de puissance du premier ange en 1840 et l'augmentation de puissance du deuxième ange en 1840 typifient toutes deux l'augmentation de puissance du troisième ange le 11 septembre. Le 18 juillet 2020 fut l'arrivée du deuxième ange, préfiguré par la première déception des millérites le 19 avril 1844. Les histoires des deux augmentations de puissance des premiers et deuxièmes anges de l'histoire des millérites, ainsi que l'histoire de l'augmentation de puissance du troisième ange le 11 septembre, témoignent de l'augmentation de puissance du message du cri du minuit arrivé en juillet 2023.
La période du scellement commence le 11 septembre et se termine avec la loi du dimanche. Elle commence par le Christ soufflant quelques gouttes de la pluie de l'arrière-saison et se termine par des langues de feu portant un message au monde à la Pentecôte. Pierre a identifié la Pentecôte comme un accomplissement de Joël. Ce fait établit que le souffle du Christ est aussi un accomplissement de Joël, car la période de la Pentecôte a un début et une fin précis qui démontrent que l'alpha est aussi l'oméga. Le jour de la résurrection du Christ, l'offrande des prémices d'orge fut présentée, et 50 jours plus tard, à la Pentecôte, l'offrande des prémices de blé fut présentée. Le 11 septembre symbolise le cri de minuit qui arrive juste avant et conduit à la loi du dimanche. L'accomplissement de parfait de la représentation du cri de minuit, selon Zacharie 9, est postérieur à juillet 2023.
Réjouis-toi grandement, ô fille de Sion. Pousse des cris de joie, ô fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut. Humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Zacharie 9:9.
Ainsi, Zacharie s'accorde avec la symbolique d'Ésaïe, présentant le peuple de Dieu comme une couronne, mais il ajoute que la couronne est aussi l'étendard lorsqu'il écrit « car ils seront comme des pierres d'une couronne qu'on élève comme un étendard sur sa terre ». Et Zacharie reprend encore la joie associée au symbole de Joël que sont le blé et le vin nouveau, en déclarant « le blé rendra les jeunes hommes joyeux et le vin nouveau les jeunes filles ». En considérant le récit des ivrognes d'Éphraïm au chapitre 28, notez qu'il s'agit du chapitre biblique qui identifie le repos et le rafraîchissement. Il s'agit de l'un des passages principaux des Écritures concernant la pluie tardive, de sorte que ces ivrognes d'Éphraïm doivent être les mêmes ivrognes dont parle Joël.
Malheur à la couronne d'orgueil, aux ivrognes d'Éphraïm, dont la glorieuse beauté est une fleur qui se fane, qui est au sommet des vallées fertiles de ceux que le vin a vaincus. Voici. Le Seigneur a quelqu'un de puissant et de fort, qui, comme une tempête de grêle et un ouragan destructeur, comme un flot de grandes eaux débordantes, jettera à terre de sa main. La couronne d'orgueil, les ivrognes d'Éphraïm seront foulés aux pieds, et la glorieuse beauté qui est au sommet de la vallée fertile sera comme une fleur qui se fane, comme le fruit hâtif avant l'été. Celui qui l'aperçoit, dès qu'il l'a encore dans la main, le dévore. En ce jour-là, le Seigneur des armées sera une couronne de gloire et un diadème de beauté pour le reste de son peuple, et un esprit de jugement pour celui qui siège pour juger, et une force pour ceux qui ramènent la bataille jusqu'à la porte. Mais eux aussi se sont égarés par le vin, et par les boissons fortes se sont détournés du chemin. Le prêtre et le prophète se sont égarés à cause des boissons fortes, ils sont engloutis par le vin. Ils se sont écartés à cause des boissons fortes. Ils se trompent dans leur vision, ils chancellent dans le jugement. Car toutes les tables sont pleines de vomi et de souillure, de sorte qu'il n'y a pas de place propre.
Arrêtez-vous et étonnez-vous. Criez, oui, criez. Ils sont ivres, mais non de vin. Ils chancellent, mais non de boisson forte. Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit de profond sommeil et a fermé vos yeux. Les prophètes et vos chefs, les voyants, il les a voilés. Et toute la vision est devenue pour vous comme les paroles d'un livre scellé que l'on remet à un homme lettré, en disant « Lis ceci, je te prie ». Et il dit « Je ne puis, car il est scellé ». Et l'on remet le livre à celui qui n'est pas lettré, en disant « Lis ceci, je te prie ». Et il dit « Je ne suis pas lettré ».
C'est pourquoi le Seigneur a dit « Parce que ce peuple s'approche de moi par la bouche et m'honore des lèvres, mais a éloigné son cœur loin de moi, et que la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte appris des hommes, voici ». Je vais faire au milieu de ce peuple une œuvre merveilleuse et prodigieuse. Car la sagesse de leurs sages périra, et l'intelligence de leurs hommes prudents sera cachée. Malheur à ceux qui cherchent à cacher profondément leurs desseins au Seigneur, dont les œuvres sont dans les ténèbres, et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Certainement, votre renversement des choses sera estimé comme l'argile du potier, car l'ouvrage, dira-t-il de celui qui l'a fait, il ne m'a pas fait. Ou ce qui est formé, dira-t-il de celui qui l'a formé, il n'a pas d'intelligence ? Ésaïe 28:1 et 8, 29:9-16.
Le Seigneur va accomplir une œuvre merveilleuse parmi les ivrognes d'Éphraïm en leur ôtant leur sagesse et leur intelligence. Ces deux éléments même associés à la compréhension de l'accroissement de la connaissance lorsqu'un message prophétique est décelé. Ce sont les sages qui comprennent. Une partie de l'œuvre merveilleuse consiste à ôter des esprits des ivrognes d'Éphraïm la connaissance que le lion de la tribu de Juda a décelée. La séparation des sages et des méchants fait partie de l'œuvre merveilleuse du Seigneur. C'est l'évangile éternel. Après que le Christ eut conduit les Juifs ergoteurs à travers la parabole de la vigne et les eut ainsi amenés à prononcer leur propre jugement, il posa une question tirée du psaume 118.
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur, elle est merveilleuse à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Psaume 118, 22, 24.
Le Seigneur doit accomplir une œuvre merveilleuse et un prodige chez les ivrognes d'Éphraïm, et cela inclut de leur retirer la capacité de reconnaître la vérité. La pierre angulaire est merveilleuse aux yeux de ceux qui possèdent le vin nouveau de Joël. Les ivrognes ne peuvent pas lire le livre scellé.
qu'il s'agisse des dirigeants représentés comme instruits ou des laïcs représentés comme non instruits. Il est impossible aux ivrognes de comprendre correctement le témoignage prophétique des Écritures tel que représenté par le livre scellé. Les ivrognes sont aussi identifiés à deux reprises comme étant hors du chemin. Encore une fois, cela est consigné dans Ésaïe 28, un passage de l'Écriture de premier plan sur la pluie de l'arrière-saison, où Ésaïe identifie le repos et rafraîchissement que les ivrognes ne voulurent pas entendre. Le repos et rafraîchissement est un message, car on peut l'entendre. Cette ivresse a écarté les ivrognes des anciens sentiers de Jérémie, qui sont la voie dans laquelle il faut marcher pour trouver la pluie tardive que Jérémie présente comme le repos. Le rejet du message de la pluie tardive par les ivrognes d'Éphraïm est un sujet précis de la parole de Dieu. Ils sont ivres parce qu'ils ont refusé de revenir à l'histoire fondatrice qui fournit le plan directeur de l'histoire des 144 000, laquelle est l'histoire de la pluie tardive. L'œuvre merveilleuse qui s'accomplit sur les ivrognes d'Éphraïm a lieu lors de l'effusion de la pluie de l'arrière-saison. Pendant la pluie de l'arrière-saison, un message d'épreuve produit deux classes d'adorateurs qui sont illustrées par le vin qu'ils boivent. Les méchants ont refusé de fonder leur application prophétique sur les lignes de l'histoire sacrée, et ceux qui emploient la méthode ligne sur ligne d'Ésaïe 28 boivent du vin nouveau. L'ivresse des méchants se manifeste par leur incapacité à comprendre la prophétie, et leur aveuglement a été causé par leur refus de revenir aux anciens sentiers fondamentaux. Jésus réprimanda les Juifs ergoteurs en leur demandant s'ils n'avaient jamais lu au sujet de la pierre rejetée qui devient la tête de l'angle. La pierre qui devient la tête de sable pressente la vérité prophétique selon laquelle la fondation, ou pierre angulaire, est reproduite dans la pierre de fête. La pierre alpha est aussi la pierre oméga. Le principe prophétique principal qui établit et soutient la méthodologie de ligne sur ligne, qui est la méthodologie de la pluie de l'arrière-saison, est que le commencement d'une chose illustre la fin d'une chose. Le principe prophétique principal dans le mouvement millérite était le principe d'un jour pour une année, qui a été confirmé lorsque l'ange d'Apocalypse 10 est descendu. Le principe prophétique principal dans le mouvement des 144 000 est que le commencement illustre la fin, ce qui a été confirmé lorsque l'ange d'Apocalypse 18 est descendu. La parole prophétique de Dieu est très détaillée dans son explication des facteurs liés à la pluie de l'arrière-saison. L'un de ces faits est que les ivrognes d'Éphraïm ne sont pas capables de reconnaître la pluie de l'arrière-saison, et cela fut préfiguré par les Juifs qui suggéraient tout à Pierre que les disciples étaient ivres. Le principe fondamental de la méthodologie est directement présenté comme alpha et oméga, à maintes reprises dans la parole de Dieu, mais la parole leur est scellée. La méthodologie, la règle prophétique principale et le message de la pluie de l'arrière-saison comptent parmi les thèmes sanctifiés dans une ligne prophétique de l'histoire qui est représentée comme une œuvre merveilleuse.
Encore la parole de l'Éternel des armées me fut adressée, en ces termes. Ainsi parle l'Éternel des armées. J'ai été jaloux pour Sion d'une grande jalousie, et j'ai été jaloux pour elle avec une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel, je suis revenu à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem, et Jérusalem sera appelée ville de vérité, et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des vieilles femmes s'assieront encore dans les rues de Jérusalem, chacun avec son bâton à la main à cause du grand âge. Et les rues de la ville seront pleines de garçons et de filles jouant dans les rues de la ville. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si cela paraît merveilleux aux yeux du reste de ce peuple en ces jours, le serait-ce aussi à mes yeux ? Dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je sauverai mon peuple du pays de l'Orient et du pays de l'Occident. Et je les ramènerai, et ils habiteront au milieu de Jérusalem, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, en vérité et en justice. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez en ces jours ces paroles par la bouche des prophètes, qui étaient présents le jour où fut posé le fondement de la maison de l'Éternel des armées, afin que le temple fût bâti. Car avant ces jours, il n'y avait point de salaire pour l'homme, ni de salaire pour la bête, et pour celui qui sortait ou entrait, il n'y avait point de paix, à cause de l'affliction, car j'avais dressé tous les hommes, chacun contre son prochain. Mais maintenant, je ne serai pas pour le reste de ce peuple comme au jour précédent, dit l'Éternel des armées. Zacharie 8:1-11.
Zacharie déclare « Que vos mains se fortifient. Vous qui, ces jours-ci, entendez ces paroles par la bouche des prophètes, qui étaient présents le jour où fut posé le fondement de la maison du Seigneur des armées, afin que le temple soit bâti.
Ce qui fortifie le peuple de Dieu, c'est le message de la pierre de fondation qui devient la pierre de fête. Ce message, c'est que l'histoire des Millérites se répète dans l'histoire des 144 000. Chris demande, si cela paraît merveilleux aux yeux du reste de ce peuple en ces jours, cela devrait-il aussi paraître merveilleux à mes yeux? Cette question identifie la période prophétique de l'œuvre merveilleuse de Dieu qui est le sujet de chaque prophète, mais elle identifie aussi le moment où le mouvement laodicéen des 144 000 devient le mouvement philadelphien des 144 000. C'est le même moment que celui où ils sont scellés et le même moment où le mouvement passe de militant à triomphant, ce qui est aussi le point où l'œuvre consistant à unir la divinité et l'humanité au sein de ce groupe de personnes est achevée, alors que le sanctuaire est véritablement purifié. On peut le reconnaître dans les versets, car l'histoire prophétique représentée par son œuvre merveilleuse est merveilleuse aux yeux de Dieu et aux yeux du reste. Et le face-à-face est un symbole d'unité. L'unité représentée ici parle du scellement du peuple de Dieu qui suit l'agneau partout où il va et qui a atteint un point tel qu'il préférait mourir plutôt que de pécher et de mal représenter le caractère du Christ. Micah identifie l'histoire fondatrice de l'ancien Israël comme des choses merveilleuses.
« Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je lui ferai voir des merveilles. »
Michée 7:15.
Les œuvres merveilleuses constituent l'histoire fondatrice qui est merveilleuse parce que l'histoire fondatrice se répète dans l'histoire finale, représentée par la pierre de fête. Les œuvres merveilleuses sont l'histoire qui commence avec la pierre angulaire et se termine avec la pierre de fête. Ces œuvres merveilleuses se sont manifestées dans l'histoire de Moïse et se sont répétées dans l'histoire du Christ. Moïse était la pierre angulaire et le Christ était la pierre de fête. Moïse est l'alpha et le Christ l'oméga, prophétiquement.
En commençant par Moïse, l'alpha même de l'histoire biblique, Christ expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le désir des âges, 797.
Moïse a enseigné. Et Pierre a utilisé les paroles de Moïse à la Pentecôte pour montrer que Moïse préfigurait le Christ.
Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait auparavant annoncé par la bouche de tous ses prophètes, à savoir que le Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et il enverra Jésus-Christ qui vous a été prêché auparavant, que le ciel doit retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis le commencement du monde. Car Moïse a dit vite en père en terre, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera retranchée du milieu du peuple. Et même tous les prophètes, depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont parlé, ont de même annoncé ces jours. » Actes 3, 18-24.
L'identification de Moïse comme Alpha et du Christ comme Oméga a été établie par le second témoignage de Pierre concernant Moïse lors de l'effusion de la Pentecôte. Et ce faisant, Pierre souligne et identifie qu'une composante principale du message de la pluie de l'arrière-saison et de la controverse qu'il suscite est le principe prophétique de Alpha et Oméga. Ce principe est, pour les 144 000, le pendant du principe année-jour dans l'histoire millérite. Le principe de Alpha et Oméga est le principe de la fondation devenant la pierre de fête. Ce sont les principes de Moïse et l'agneau. Et il est donc identifié par inspiration comme l'une des strophes du cantique de la vigne, qui est aussi le cantique de Moïse et de l'agneau. Le commencement et la fin, tels qu'ils sont représentés par les diverses lignes prophétiques, retracent l'histoire où Dieu accomplit ses œuvres merveilleuses. Et c'est la lumière qui se dégage de la reconnaissance de ce que représente le symbole des œuvres merveilleuses qui transforme un laodicéen en philadelphien, faisant ainsi de lui une pierre d'un temple en construction, comme le fut le temple millérite, construit en 46 ans jusqu'au 22 octobre 1844, lorsque le Seigneur vint soudainement dans son temple monachieux.
Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, en venant à lui, pierre vivante, rejetée certes par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés pour former une maison spirituelle, un sacerdoce saint, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit aussi dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire principale, élue, précieuse, et celui qui croit en lui ne sera point confondu. Ainsi, pour vous qui croyez, il est précieux, mais pour ceux qui sont désobéissants, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la tête de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour ceux qui se heurtent à la parole
étant désobéissants. Et c'est à cela aussi qu'ils ont été destinés. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce saint, royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous proclamiez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas reçu miséricorde, mais qui maintenant avez reçu miséricorde. 1 Pierre 2, 3, 10.
Être appelé à entrer dans sa lumière merveilleuse identifie le moment où l'appel est lancé. Car le jalon de 1888, que l'aspiration met en parallèle avec la rébellion de Corée dans l'histoire Alpha de Moïse, une fois transposé au dernier jour, s'aligne avec le 11 septembre quand le message de Laodicée arrive avec le troisième ange, selon l'aspiration. Les Laodicéens, dans la prophétie, sont aveugles, c'est-à-dire qu'ils sont dans les ténèbres, et l'appel à sortir des ténèbres a commencé lorsque le message de Laodicée est arrivé en 1856, en 1888 et le 11 septembre. Le 11 septembre, l'appel à sortir des ténèbres n'était pas seulement un appel à comprendre la lumière de l'ange d'Apocalypse 18, mais aussi un appel invitant l'auditeur à entrer dans l'histoire même où les œuvres merveilleuses de Dieu trouveront leur accomplissement parfait. Il a été démontré à maintes reprises au cours des trois dernières décennies que la définition prophétique de l'Évangile éternel est une histoire dans laquelle une vérité prophétique est dévoilée, ce qui initie un processus de mise à l'épreuve en trois étapes, comportant deux caractéristiques distinctes dans ces trois épreuves. Les deux premières épreuves sont d'une nature différente de la troisième, car la troisième est une épreuve décisive qui montre si vous avez réussi les deux premières. L'autre distinction dans l'Évangile éternel est que vous devez réussir l'épreuve en cours pour accéder à l'épreuve suivante. L'histoire des œuvres merveilleuses est aussi l'histoire où l'Évangile éternel atteint son apogée, car l'heure du jugement, annoncé par le premier ange et identifié comme l'Évangile éternel, trouve son accomplissement parfait à partir du 11 septembre. Le jugement dont on avertissait les Millérites eut lieu le 22 octobre 1844, lorsque la porte se ferma dans la parabole des 10 vierges, préfigurant ainsi la loi du dimanche, lorsque la porte se fermera de nouveau dans la parabole des 10 vierges. Le 11 septembre annonce que l'heure du jugement exécutif de Dieu commence au moment de la loi du dimanche, tout comme les Millérites annoncèrent par le 11 septembre. Le H. Yventembre atteint par Satan Attal à nouveau en 1844. La période allant du 11 septembre jusqu'à la loi du dimanche est représentée comme les œuvres merveilleuses de Dieu. Et tout comme la pierre de fondement qui devient la tête de l'angle, et tout comme la saison de la Pentecôte, et tout comme Habacuc chapitre 2, et comme le temps du scellement des 144 000, et comme observant le temps d'épreuve de l'image de la bête, et comme l'Évangile éternel, et comme l'histoire sacrée de 1840 à 1844, et comme l'histoire de l'Apocalypse, chapitre 10, et comme l'histoire depuis le baptême du Christ jusqu'à sa mort.
L'histoire représentée sous forme fractale par son baptême a commencé la période de 2520 jours qui s'est terminée à la croix. Le baptême du Christ représentait sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, ce qui s'est accompli littéralement à la fin des 1560 jours.
Lorsque le Saint-Esprit est descendu lors du baptême du Christ, cela préfigurait la descente de l'ange d'Apocalypse 18 le 11 septembre. 1260 jours prophétiques plus tard, les événements symbolisés par le baptême ont été littéralement accomplis à la croix. L'histoire allant du baptême à la croix contient une histoire alpha symbolique qui s'accomplit littéralement à la fin de la période. Les histoires alpha et oméga sont des fractales de l'histoire dans son ensemble. L'histoire du baptême à la croix constitue les œuvres merveilleuses de Dieu. Et cette histoire est aussi représentée par le baptême du Christ et aussi par ses morts, ensevelissements et résurrections littéraux, et donc aussi par le baptême de l'ancien Israël à la mer Rouge, ainsi que par le baptême des huit âmes au temps de Noé. Toutes ces périodes représentent l'histoire de ces œuvres merveilleuses. Lorsqu'il s'agit du chiffre 8 comme symbole de résurrection, ce sont ces huit âmes sur l'arche qui constituent la première mention du chiffre 8 en tant que symbole, et selon la règle de la première mention, tous les détails prophétiques se trouvent dans cette première mention. Les huit âmes passent de l'ancienne terre à une terre nouvelle, n'est-ce pas?
Ces huit âmes ont traversé le temps de la pluie. Mais tous ceux qui ont refusé le message d'avertissement de la pluie sont morts, n'est-ce pas?
Les huit âmes qui vont vers la nouvelle terre et qui sont représentées par l'histoire du message d'avertissement rejeté, de la porte fermée, de la pluie et de la nouvelle terre ont connu un changement de dispensation, de l'ancien monde au nouveau.
Le changement de dispensation qui marque les huit âmes, qui sont les 144 000, est la transition de Laodicée à Philadelphie.
ce qui est aussi la transition de l'Église militante composée de blé et d'ivraie vers l'Église triomphante composée uniquement de l'offrande de blé des prémices qui est dressée comme un étendard, une offrande pour que le monde entier la voie, semblable à la vision d'une barque solitaire sur des eaux houleuses. Ces personnes sont le 8 qui est du 7, et l'histoire de la traversée dans l'Arche et de la traversée de la mer Rouge sont toutes deux des illustrations de ces œuvres merveilleuses. Ces âmes sont celles qui ont été ressuscitées en accomplissement de l'Apocalypse 11:11. Elles constituent le peuple de l'Alliance de Dieu, représenté par leur père Abraham, qui portait le signe de l'Alliance par la circoncision, laquelle devait être pratiquée le huitième jour. Toutes ces lignes représentent la même période de temps. Et cette période de temps commence avec les fondements du 11 septembre et se termine avec la loi du dimanche. Le 11 septembre est la pierre de fondation et la loi du dimanche est la pierre de fête. Dans l'histoire de la reconstruction de Jérusalem à l'époque de Néhémie et d'Esdras, la fondation fut achevée durant l'histoire du premier décret et le temple lui-même fut terminé bien avant le troisième décret. Dans l'histoire des Millerites, les fondations furent établies en mai 1842, lorsque le tableau de 1843 fut publié. Le temple Millerite devait être 46 ans en édification, de 1798 jusqu'en 1844. Avant le 22 octobre 1844, le temple Millerite était achevé, la pierre de fête étant le cri de minuit. Lorsque le cri de minuit s'acheva le 22 octobre 1844, l'Alpha, le troisième décret de 467 avait Jésus-Christ, avait trouvé son pendant dans l'Oméga de 1844. 467 avait Jésus-Christ comme l'Alpha des 2136 et 1844 comme l'Oméga. Les deux sont identiques à un certain niveau, car un décret comme un ange sont tous deux des messages. Et tous deux typifient la loi du dimanche, où il y aura un décret et où le message du troisième ange s'amplifiera jusqu'au grand cri. De 487 avec Jésus-Christ jusqu'en 24-5 avec Jésus-Christ, 49 ayats furent identifiés par Daniel comme la période durant laquelle les Juifs achèveraient la reconstruction. La rue sera rebâtie et la muraille, même en des temps troublés.
Sache donc et comprends que, depuis la promulgation du décret pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. La rue sera rebâtie, ainsi que le mur, et cela même en des temps troublés. Daniel 9:25.
47 avergentastis et 1844 sont l'alpha et l'oméga de la prophétie des 2103 ans. Tous deux préfigurent la loi du dimanche, car en tant qu'alpha et oméga, ils sont identiques. Et la déception de 1844 est mise en parallèle par l'inspiration avec la déception de la croix. Si 1844 préfigure la croix, et c'est le cas, alors son pendant alpha, 457 avergentastis, le fait aussi. La période 1844-1863 illustre le processus d'épreuve du troisième ange. Ce processus d'épreuve est représenté par les 49 ans entre le troisième décret, le décret de la loi du dimanche, et l'achèvement des travaux de la rue et de la muraille, qui a lieu en des temps troublés. La période allant de 457 Fetjejudou à 408 Fetjet est l'histoire alpha des 2300 ans, qui illustre l'histoire Oméga de 1844 à 1863. Ces deux histoires illustrent l'histoire des 144 000 après qu'ils auront été scellés lors de la loi du dimanche, jusqu'à ce que l'approbation humaine prenne fin. L'œuvre des 144 000 est de rappeler les hommes et les femmes aux anciens sentiers, que Kesaï dépeint comme la reconstruction des ruines antiques et que Jérémie identifie comme le chemin menant au message de la pluie tardive. Le mur est la loi de Dieu que les 144 000 érigeront en étendard devant le monde entier. Cela se déroulera au temps troublé du troisième malheur de l'islam, car c'est l'islam qui provoque la colère des nations. L'œuvre et les temps troublés se poursuivront jusqu'à ce que Michel se lève.
Ainsi, si vous pouvez voir que de 405 sont à Végétis au 5 en sac à 408 à Végétis au 5 avec 1754 avec 7245, est une période prophétique qui a commencé avec le troisième décret et a préfiguré une période prophétique qui a commencé en 1844 avec l'arrivée du troisième ange et s'est terminée en 1863. Alors vous pouvez voir que leur lien avec la prophétie des 2300 ans, soit comme point de départ, soit comme point d'aboutissement, les identifie comme l'alpha et l'oméga de la question l'un par rapport à l'autre. Les temps troublés de Néhémie illustrent le temps troublé menant jusqu'à et y compris la guerre de sécession. La période de 49 ans dans l'histoire alpha représente la période de 19 ans dans l'histoire oméga. Cette période de 19 ans était aussi représentée par les 19 années au début de la prophétie de 65 ans d'Ésaïe.
car la capitale de la Syrie, c'est Damas, et le chef de Damas, c'est Retsin. Et d'ici 65 ans, Éphraïm sera brisé, au point de ne plus être un peuple. Ésaïe 7:8.
Ésaïe présenta cette prophétie en 742 avant Jésus-Christ, et 19 ans plus tard, en 703 Trunkova Desemga, elle règna 2.2504 ans des s'achevant en 54 ans vivit. Les 19 années de 742 avant Jésus-Christ jusqu'en 703 Trunkova Desemga correspondent aux 19 années de 1844 à 1863, car les 19 premières années sont l'alpha de cette prophétie, et les 19 dernières en sont l'oméga. Dans cette histoire de 19 ans, le roi impie Achaz fut confronté par Ésaïe au message de la pluie de l'arrière-saison, présenté au verset 8 comme le message des 7 ans. Achaz rejeta ce message, tout comme l'adventisme millérite laodicéen en 1863. Pendant cette période, le grand prêtre d'Ahaz se rendit en Assyrie. On rapporta le plan de leur temple païen et Ahaz le fit construire dans la cour du temple de Dieu. Cette ligne est parallèle au récit du prophète désobéissant qui ne devait pas retourner en Juda par le même chemin qu'il était venu, mais qui le fit et fut trompé par un faux prophète menteur représentant le retour à la méthodologie du protestantisme apostat, afin de se soustraire à la compréhension millérite des sept temps, dans un accomplissement classique d'un chien retournant à son propre vomi. Cela se produisait alors qu'une guerre civile entre le royaume du Nord et le royaume du Sud commençait, typifiant ainsi la guerre de sécession aux États-Unis. Lorsque la période de 19 ans se répétait. La période de 742 avant Jésus-Christ à 733 avant Jésus-Christ représente les 19 années de 1844 à 1863, ce qui représente la période allant de la loi du dimanche jusqu'à la fin du temps de grâce. L'histoire du 11 septembre jusqu'à la loi du dimanche est l'histoire de l'épreuve de l'image de la bête aux États-Unis, laquelle est reproduite dans l'épreuve mondiale de l'image de la bête qui commence à la loi du dimanche. Pour cette raison, les périodes de 19 ans, qui représentent la période allant de la loi du dimanche à la fin du temps de grâce, représentent également l'histoire du 11 septembre jusqu'à la loi du dimanche, qui est l'histoire de ces œuvres merveilleuses. Nous continuerons dans le prochain article de Pater.
Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, quel est ce proverbe que vous avez au pays d'Israël disant « Les jours se prolongent et toute vision échoue » Dis-leur donc Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je ferai cesser ce proverbe, et ils ne l'employeront plus comme proverbe en Israël. Mais dis-leur, les jours sont proches, et l'effet de toute vision, car il n'y aura plus aucune vision vaine ni de divination flatteuse au sein de la maison d'Israël. Car je suis le Seigneur, je parlerai, et la parole que je parlerai s'accomplira. Elle ne sera plus différée. Car de vos jours, ô maison rebelle, je dirai la parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur Dieu.
De nouveau, la parole du Seigneur me parvint, disant, Fils de l'homme, voici, ceux de la maison d'Israël disent, la vision qu'ils voient est pour bien des jours à venir, et ils prophétisent pour des temps lointains. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, aucune de mes paroles ne sera plus différée, mais la parole que j'ai prononcée s'accomplira, dit le Seigneur Dieu. Ézéchiel 12, 21, 28.